Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, c'est un effort commun, c'est un effort collectif pour essayer de faire en sorte que la Libye accède le 24 décembre prochain à des élections. Et pour ce faire, il y a cette réunion consultative qui s'organise au Maroc et qui accueille donc des délégations de la Chambre des représentants libyens et puis également du Haut Conseil d'État libyen. L'objectif est de parler de cette fameuse loi électorale qui organisera ce scrutin général donc le 24 décembre prochain. L'idée générale étant de réussir à trouver un dialogue autour de ce que seront les enjeux de l'organisation du scrutin, comment les personnes seront choisies, comment tout cela va s'organiser, parce que c'est un défi que d'organiser ce grand scrutin dans un grand pays, hein, est, ouest, sud. Ce sont là des défis logistiques et également des enjeux politiques qui sont tout à fait importants. D'ailleurs, dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a estimé que c'était l'occasion pour que les deux parties libyennes puissent travailler ensemble à jeter les bases constitutionnelles, puis comme ça permettre d'organiser ces élections dans les délais qui sont impartis. Tout le monde veut tenir absolument cette date du 24 décembre. Et on peut dire que du côté marocain, cela s'inscrit dans une dynamique qui avait été initiée à Srirat. C'était en 2015 avec ces premiers travaux qui avaient été effectués par la diplomatie marocaine concernant le dossier libyen. Et donc voilà, c'est 48 heures de discussion sont dans cette continuité. C'était une réunion du Conseil africain de paix et de sécurité. Et à cette occasion, le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est alarmé une fois encore de la présence de mercenaires et de forces étrangères en Libye. Il estime que la communauté internationale n'a pas pris totalement la mesure de cette présence étrangère qui pose des problèmes pour la reconstruction politique. Et c'est vrai qu'on en parlait hier dans les colères du monde. Il y a ces 2000 mercenaires syriens qui sont actuellement stationnés en Libye et qui devraient rentrer au pays prochainement. Il y a eu déjà d'autres allers-retours de contingents. Il y a des rotations sur les effectifs. En règle générale, les hommes restent environ moins d'un an. Ils reçoivent un salaire. Ils sont payés tous les 4 mois. Mais il y a eu des tensions sur le versement des salaires. Tout ça fait dire donc au ministre égyptien, mais à d'autres aussi, comme les États-Unis, l'Europe, toutes les grandes puissances du Maghreb aussi sont nombreuses à s'alarmer de cette présence étrangère qui n'aide pas, qui ne concourt pas à une résolution politique saine et apaisée de la crise en Libye. La Tunisie maintenant, avec cette réunion de travail qui a eu lieu aujourd'hui au palais de Carthage. Le président de la République, Aïs Saïed, a reçu sa première ministre, Najla Bouden, qui est donc chargée de former la prochaine équipe gouvernementale. Alors il y a eu cette déclaration qui a mis certainement de la pression sur les épaules de cette femme. Le président tunisien a dit, et là je le cite, « Vous êtes entrée dans l'histoire et le monde entier parle de la première femme arabe à être nommée à la tête d'un gouvernement. Nous construisons l'histoire et nous poursuivrons ainsi, etc. » Donc voilà cette déclaration chargée d'émotion et puis aussi de pression, quelque part de pression politique sur les épaules de Najla Bouden. Donc c'est une femme, cette universitaire qui aujourd'hui est rendue à l'arithmétique très compliquée de la politique tunisienne pour former une équipe gouvernementale qui puisse relever les défis économiques, sociétaux et également politiques de la Tunisie dans les prochaines années à venir. Le régime tunisien qui a reçu un soutien, la personne du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abulgeit, qui a fait cette déclaration estimant que, indépendamment des critiques et des interrogations qui ont pu être formulées depuis la mise en place de mesures exceptionnelles qui régissent aujourd'hui la vie politique tunisienne, eh bien, le secrétaire général de la Ligue arabe dit, et là je le cite, « Le futur révélera qu'il n'est pas un dictateur », là bien évidemment il parle du président tunisien, « mais un réformateur ». Fermez les guillemets, point, nous verrons si l'avenir lui donne raison. Des manifestations en Irak, des manifestations de contestation, alors que nous sommes à une semaine de ces législatives qui se tiendront donc dimanche prochain, pas ce dimanche 3, mais le dimanche suivant, donc le dimanche 10 octobre. Beaucoup de tensions et un président irakien qui révèle qu'il espère réaliser des amendements constitutionnels à l'issue de ce scrutin. Il part du principe qu'il faut d'abord poser la base électorale du pays avec ce vote qui va permettre de prendre le pouls politique de la population irakienne et sur la base de quoi procéder à des modifications constitutionnelles pour répondre aux demandes de la population. Alors c'est toujours un travail très délicat que d'amender une constitution parce que cela touche au fondement même d'une nation. Mais en tout cas, c'est la mission que le président irakien s'est donnée. Il veut en tout cas réussir à apaiser la colère de la population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de vraies tensions qui sont exercées en Irak. On peut se souvenir que les vols aériens seront fermés le 10 octobre sur l'ensemble du territoire national irakien. Il y a également des appels qui ont été lancés, notamment par l'ayatollah Sistani, qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'abstention, à ce que la population irakienne s'investisse dans ce vote. Il y a également des appels qui ont été lancés pour que les populations civiles, où qu'elles résident en Irak, eh bien, restent chez elles, restent dans la petite ville qui est la leur, qu'elles aillent faire leur devoir de citoyen, mais qu'il n'y ait pas de grands mouvements de population, de telle façon à ce que cette journée du 10 octobre soit le plus calme possible. En tout cas, telle était la volonté de Ali Sistani et puis aussi du président irakien qui réfléchit à des amendements pour la constitution de ce pays. Les forces iraniennes ont engagé aujourd'hui des manœuvres à la frontière de l'Azerbaïdjan avec qui les relations se sont quelque peu dégradées. Les relations ont toujours été tendues entre les deux pays, mais là, il y a eu une montée de tensions avec des affaires de camions iraniens qui ont été arrêtés, qui ont dû payer des amendes. Des chauffeurs ont été arrêtés, puis libérés. Il règne en tout cas aujourd'hui une tension entre ces deux États, sachant qu'il y a aussi en Azerbaïdjan des opposants au régime de Téhéran et qui trouvent là un refuge bien nécessaire puisqu'il n'est pas possible politiquement de militer quand on est en Iran, sous peine de finir dans les prisons du régime des Mollahs. Donc voilà, ces manœuvres militaires iraniennes, alors cela ne présage en rien d'un conflit, hein, personne n'en veut, mais le fait est, c'est qu'il y a aujourd'hui une véritable tension politique entre ces deux pays. Écho, 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 écho. Notre destination aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'espace sahélo-saharien, mais en descendant quelque peu sur la façade ouest du continent, puisque le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau ont réussi à signer un accord de partage des eaux souterraines que ces pays ont en commun. Cela bénéficiera à 25 millions de personnes dans la région. On sait que c'est très important pour la Mauritanie, qui est un pays pour partie désertique. Donc la gestion des ressources en eau est tout à fait essentielle. Et également aussi pour Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, tout cela est tout à fait important parce que les eaux qui proviennent des sphères souterraines de la Terre sont souvent des eaux de grande qualité. Ce sont des eaux très pures, très propres, donc qui sont tout à fait importantes et essentielles à la vie humaine en surface. Et c'est important qu'il y ait eu cet accord qui s'est déroulé, somme toute, assez discrètement. Il y a eu assez peu de présence médiatique tout autour du cycle qui a précédé la signature. Et puis finalement, cela s'est fait assez naturellement à Genève. Et c'est un point qui est tout à fait important et qui nous amène à repenser à ces problématiques de partage des eaux en se souvenant que ce n'est pas parce que l'on n'en parle plus que la question est résolue. Il y a toujours une inconnue qui porte sur le partage des eaux du Nil, avec toujours l'Égypte qui s'inquiète de cet immense barrage qui a été construit par les et qui est en train d'être finalisé. Mais il est quand même bon de se souvenir que dans le monde, dans notre monde, il y a seulement 25 pays qui ont réussi à signer des accords sur le partage des eaux, sur la gestion commune des ressources en eau, ô combien vitale. Mais 25 pays seulement ont réussi à signer ce type d'accord. C'est très très peu au regard du nombre de nations. On est au-dessus de 150-160 nations à travers le monde, ce qui dit donc la tension qui peut exister autour d'une négociation portant sur la ressource en eau, mais aussi cela dit la persistance de certaines nations à résoudre par le politique le partage de cette ressource si précieuse. Et en cela, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau envoient un message, finalement, envoient un message politique qui consiste à dire, bah oui, finalement, c'est possible, on peut le faire. Toutes ces affaires peuvent se négocier sereinement et tout le monde ne s'en porte que mieux. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.